Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui avec nous dans ce Cap-Cap, un homme qui a la lourde tâche de nous offrir des moments de plaisir et de culture, c'est quand même un peu la même chose. Il est directeur artistique d'une prestigieuse et ancienne maison toulousaine, l'Opéra National du Capitole. Bonjour Christophe Gristy.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc directeur artistique de l'Opéra, alors national maintenant du Capitole, hein, vous nous expliquerez pourquoi ce national est important aujourd'hui, depuis septembre 2017, et une maison que vous connaissiez avant, puisque vous y avez sévi, je crois, avec Nicolas Joël, où vous étiez dramaturge, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Dites-nous ce que c'est qu'un dramaturge.
Oh, il n'y a pas de définition.
C'est bien pour ça que
définitive.
Je vous pose la question.
Mais disons que auprès de Nicolas Joël, dans cette période au Capitole, je m'occupais de tout ce qui était publication. Je faisais plein de choses. Je m'occupais du surtitrage. C'est comme ça que j'étais tout jeune. Hein, je sortais de mes études. C'est comme ça que j'ai appris le répertoire. Je faisais aussi un petit peu de programmation avec des concerts de musique de chambre que la Joël avait bien voulu me confier. Enfin voilà, je faisais tout ce qui est culturel, les conférences, les rencontres avec les.
Je m'occupais aussi. Donc le dramaturge, c'est pas dramatique, c'est pas le drame.
Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est vraiment un assistant, comment dire, littéraire, artistique d'un directeur.
Alors littéraire, vous l'étiez au départ, je crois, puisque
oui, absolument.
Vous avez fait l'école normale. Si oui, j'ai bien lu ce qui se lit sur Internet où il y a tout et malheureusement des fois pas suffisamment renseigné ou documenté. Comment on passe de l'école normale et de la littérature à la musique?
Déjà. Dans mes deux dernières années à Normal Sup, je commençais à écrire pour des journaux musicaux. J'étais passionné de musique, passionné de théâtre. Je me voyais pas professeur, je me voyais pas enseignant. Je l'ai été quelques temps, mais très 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 brièvement. Et en effet, j'étais fasciné par le monde du théâtre. Mais je voulais entrer dans un théâtre, si possible un opéra. Je ne savais pas du tout ce qu'on pouvait y faire. Je ne savais pas du tout mon milieu d'origine. Donc, je n'avais pas vraiment idée de comment ces maisons-là fonctionnaient. Et puis voilà, donc je suis passé très naturellement parce que j'avais commencé avant même de sortir de Normal Sup, d'essayer d'entrer dans ce monde-là.
Comment vous y avez été reçu? Parce que vous dites, je suis arrivé, je ne connaissais pas, j'avais le goût, mais je ne connaissais personne et je ne savais pas, absolument pas comment ça marchait. Comment vous avez été accueilli? La porte s'est ouverte facilement pour quelqu'un qui était plus curieux que professionnel, peut-être, au départ?
Oui, ça a été assez simple. Moi, j'étais vraiment très, très passionné et j'ai passé mon temps à aller écouter de la musique, à commencer à voir des spectacles. Et j'ai envoyé des critiques, des critiques de disques, des critiques de spectacles à différents rédacteurs en chef de revues spécialisées qui m'ont engagé tout de suite. Donc ça s'est passé simplement. Et puis après, j'ai rencontré aussi un grand musicographe qui s'appelait André Tuboeuf, qui était une grande plume française, et qui m'a présenté à l'époque à Nicolas Joël, qui cherchait un dramaturge pour Toulouse. Donc là, je vivais à Paris à ce moment-là, j'étais enseignant, et au bout de quelques mois, nous avons pris la décision que je venais à Toulouse et que je m'immergeais à plein temps dans cette fonction.
Qu'est-ce que vous avez enseigné?
La littérature.
Ouais. Oui. À quel... Alors j'étais dans un lycée.
Non, j'étais à la fac. J'étais à Cergy Saint-Christophe et j'enseignais le français et la littérature, mais surtout le français à des étudiants de droit.
Aujourd'hui, on l'a aux étudiants de droit auxquels j'ai enseigné aussi, on ne leur apprend plus le français.
Mais c'était,
surtout c'est... quand on corrige leur copie, on se rend compte qu'ils ne savent plus parler français.
Voilà, c'est pour ça que cette université avait mis en place ces cours de lettres, qui en effet étaient utiles.
Hein. Oui, je veux bien le croire. Comment une maison d'opéra, alors aujourd'hui, bon, on ne va pas dérouler toute votre carrière, vous avez été à Paris, vous avez fait le dramaturge, si je puis dire, aussi à Paris, vous avez l'Opéra National de Paris, vous avez été au Palais Garnier aussi, vous avez fait des expositions, la Bibliothèque Nationale de France, l'Amphithéâtre Bastille, donc vous êtes plus que rodé à Paris. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'Opéra de Toulouse. Comment ça marche une maison comme ça ? Parce que c'est énorme ces maisons. Oui. Il y a tellement de métiers qu'on ne voit pas. Il y a ceux qu'on voit, ceux qui sont sur la scène. Mais pour faire fonctionner la scène, il faut une foultitude de gens derrière. Comment on fait fonctionner tout ça ?
Ouais, le cœur d'une maison, c'est le planning, bien sûr. C'est-à-dire ce qu'on fait chaque jour. Évidemment, l'activité, c'est toujours un millefeuille. Et si je parle de la direction artistique, c'est un millefeuille sur plusieurs années. Donc vous avez les répétitions en cours, les spectacles en cours. Vous avez d'un côté les répétitions du chœur, du ballet, les répétitions de mise en scène d'un prochain spectacle. Par exemple, aujourd'hui, le chœur répète de son côté Boris Godounov. Il y a des mises en scène avec les chanteurs de Boris dans un autre endroit. Sur scène, on est en train de monter le décor. Et parallèlement à ça, le ballet commence à répéter le spectacle qu'il donnera en décembre. Donc évidemment, le planning, c'est ce qui nous réunit. Et puis les ateliers de décor sont en train de construire une production qui aura lieu au printemps. Et les costumes, etc. Enfin, vous voyez, donc c'est un... Et en effet, alors comment... Bah, donc ça marche comme ça, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation et puis de l'anticipation. Et puis après, on passe les... Même si les choses sont préparées, très bien préparées, on passe ces journées à régler des problèmes. Mais c'est des problèmes... Alors, c'est fascinant parce qu'il arrive toujours des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, même après
malgré le planning.
20 ou 30 ans d'expérience. C'est toujours plein de surprises. Mais bon, voilà, c'est enivrant. C'est enivrant. Même les gros problèmes sont enivrants.
Et stressant, j'imagine.
Oui, c'est vrai que c'est très stressant. Ouais. Après, la récompense est gigantesque.
Pour parler chiffres et être un peu trivial, c'est l'Opéra de Toulouse, c'est combien de personnes, tous métiers confondus, les administratifs, les techniciens, le ballet, l'orchestre.
Alors si on inclut l'orchestre, oui. Qui a sa direction artistique
propre,
c'est à peu près 400 personnes fixes. Il y a ensuite les intermittents et les artistes invités qui sont là. Donc, en tout cas, c'est déjà 400... Oui, c'est un gros vaisseau.
Oui, c'est une grosse maison.
Une grosse maison de 400 personnes. Et vous pouvez la diviser en deux, entre les trois masses artistiques, l'orchestre, le ballet, le chœur, et une autre moitié qui est à la fois l'administration et la technique.
Et il y a la maîtrise aussi.
La maîtrise, absolument. Donc, ça, ce sont des enfants. Oui, on a une soixantaine d'enfants. Qui sont évidemment des volontaires.
Et pour faire fonctionner tout ça, c'est la ville de Toulouse. Vous êtes tous fonctionnaires ou avec des contrats. Vous avez un budget de combien, si je ne suis pas indiscret ?
Alors pour l'opéra, c'est un peu plus de 20 millions. Un peu plus, voilà. Mais c'est vrai que le soutien de la ville est historiquement... Parce que chaque maison a ses particularités, a son histoire budgétaire, juridique. Et par exemple, donc pour ce qui est du Capitole, c'est toujours la ville qui a, et maintenant la métropole, qui a subventionné le plus largement la maison. Depuis que nous sommes nationaux, vous l'avez évoqué, la subvention de l'État a un petit peu augmenté. Même si elle reste très en deçà des autres opéras nationaux qui ont été labellisés il y a plus de 20 ans, quand il y avait moins, ou 30 ans, quand il y avait moins de problèmes qu'aujourd'hui. Et nous avons la caractéristique, malheureuse, je me permets de le dire, de ne pas être subventionnés par la région, ce qui est une anomalie. J'espère qu'elle sera bientôt corrigée.
Pourquoi la région ne subventionne pas ?
C'est historique, ça aussi. Si j'ai bien compris, moi je suis pas d'ici, donc j'ai pas toutes les arcanes. Je connais pas toutes les arcanes. Toulouse a souvent été dirigée par la droite dans une région de gauche. On m'a expliqué que les choses pour ça. Après, c'est très difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui tout ça est beaucoup moins marqué qu'il y a 20 ans ou 30 ans.
La culture, c'est pas politique, la culture.
Ah, tu parles. Pardon. La culture, c'est très politique et c'est une des bonnes choses. Voilà, donc historiquement, et puis c'est très difficile en effet quand vous n'avez pas dans un budget d'une région, etc., un chapitre, c'est très difficile de l'ajouter, ça c'est sûr, c'est un geste important.
Mais on en voit s'ajouter pour des choses. Un peu mineur, ça, voilà. Parfois, donc...
Mais pour... j'espère ouais. Vraiment, puisqu'en plus, nous, on fait beaucoup de choses dans la région, j'espère un jour que l'Opéra National du Capitole sera subventionné par la région Occitanie.
Tout à l'heure, j'avais insisté là-dessus en disant que maintenant, c'était un opéra national. Qu'est-ce que ça apporte, l'étiquette nationale ?
Écoutez, donc, ça apporte un petit peu de sous.
Mais ça, c'est pas négligeable.
C'est pas du tout négligeable, c'est très important. C'est surtout une reconnaissance quand même. D'abord, c'était étrange, si vous voulez, dans le paysage français que le Capitole ne soit pas opéra national. C'est historique, c'est-à-dire qu'au moment où l'État ou le ministère de la Culture organisait toutes ces labellisations de maisons, d'abord le Capitole n'avait pas voulu se soumettre, ce que je trouve très bien, au cahier des charges du ministère de la Culture. Et n'avait pas à faire d'efforts à l'époque pour s'y soumettre parce qu'il n'y avait pas de problème de budget. La ville avait décidé de rester indépendante et de faire ce qu'elle voulait avec son opéra. Les temps, évidemment, ont changé. D'abord, en effet, maintenant, dans le paysage où il y a plusieurs, en France, maisons d'opéra qui sont labellisées, c'est très étrange. Que une des plus grandes, une des plus importantes ne le soit pas. Et puis aujourd'hui, on a besoin de sous. Donc, même si je dois dire que la métropole nous soutient de manière vraiment très, très extraordinaire.
La métropole on a besoin et, la mairie, c'est un peu la même maison quand même.
La métropole et la mairie, oui, bien sûr, absolument. Bien sûr. Nous avons besoin de cet apport. Et puis, je ne trouve pas très intéressant de rester dans son coin et je trouve très bien d'être en réseau avec les autres opéras nationaux. Donc c'était une récompense. Si vous voulez, il faut bien se dire que le Capitole est une des dernières maisons en France de cette importance, enfin une des maisons les plus importantes avec Lyon, Strasbourg, avec des ateliers de décors, de costumes, de perruques, avec évidemment donc ces trois masses artistiques. En effet, c'est un vaisseau comme il n'y en a plus beaucoup. Donc il est absolument normal qu'elle... Et puis qu'il y avait une grosse activité en région, aussi bien l'orchestre que le chœur ou le ballet. Donc il n'y a pas de raison que l'opéra ne soit pas national.
Combien de spectacles par an ? Alors il va falloir serrer entre le ballet, j'imagine, l'orchestre.
L'orchestre, ça, je parlais c'est pas d'orchestre. Part, hein. Oui, c'est à part. Même si c'est l'orchestre qui, évidemment, est dans la fosse pour nos spectacles. Dans le planning... De la maison, on peut faire entrer sept opéras, donc scéniques, hein, bien sûr, sept opéras et trois ballets. Nous donnons souvent un quatrième ballet hors les murs, la plupart du temps à l'Ogrin. Et après, s'ajoute à cela, il peut y avoir un opéra hors les murs. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années avec le Théâtre Garonne, notamment. Et puis, toute une série de concerts qu'on peut faire entre les spectacles. Ça ne demande pas d'installation. Mais dans le planning, qui est vraiment occupé à l'heure près du 20 août au 10 juillet, et encore évidemment entre le 10 juillet et le 20 août, c'est de la maintenance et c'est des choses très importantes qui se passent dans la maison, nous n'avons pas deux heures de libre dans ce planning de fin août à début juillet.
Alors quand on entend cet opéra, ça ne paraît pas considérable.
Mais par rapport à d'autres, aux autres maisons françaises, c'est beaucoup maintenant. En fait, c'est le... D'abord, il faut. C'est sept opéras et trois ballets, donc il faut quand même bien dire ça. Parce que et quand vous additionnez, quand vous dites que ça fait 10 productions dans l'année, sur une saison qui dure 10 mois, ça va en fait très vite. Entre Le démontage, enfin, le cycle, il est toujours le même. Hein. C'est le, on monte d'abord un décor, ça prend quand même plusieurs jours. On répète dans ce décor, d'abord avec le, seulement avec un piano, et l'orchestre arrive ensuite. Il y a le moment de l'exploitation, le moment des spectacles, puis vous démontez évidemment le décor. Tout ça fait un cycle d'un mois. Et en effet, ça n'est pas un théâtre. Donc, en effet, 10 mois, 10 spectacles à peu près. Ça n'est pas un théâtre où on peut faire de l'alternance, c'est-à-dire de donner plusieurs spectacles à la fois. Je pense qu'un certain nombre de vos auditeurs connaissent l'architecture du lieu. C'est un lieu qui est historique, derrière une façade qui est du 18e et avec des murs qui n'ont pas bougé depuis le 18e. Et qui est...
L'intérieur a bougé. L'intérieur a bougé. Il a été refait à plusieurs reprises.
Si vous voulez, si on parle de
oui, c'est pas extensible à l'infini.
Non, ils sont pas extensibles du tout. le mur du bâtiment, il est pas du tout extensible. Ce qui fait que vous n'avez pas vraiment la possibilité. Je sais pas d'ailleurs si on aurait aujourd'hui le public, mais vous n'avez pas la possibilité de donner plusieurs spectacles à la fois. Vous pouvez en effet alterner des représentations d'opéra ou de ballet et des concerts à l'intérieur de ça, parce que ça c'est très léger. Mais vous ne pouvez pas donner deux spectacles en même temps. On ne pourrait pas alterner deux décors. De deux côtés du plateau, vous avez la rue, avec un dégagement qui fait 2 mètres peut-être. Ouais. De l'autre côté, vous avez la fosse. Et puis le quatrième côté, là, il y a un tout petit peu d'espace. Mais c'est un théâtre qui est fait, c'est un théâtre du 18e, enfin, dans un des murs du 18e. Donc il est fait pour en fait, des toiles peintes. Alors, si on avait des toiles peintes encore, ce qui n'est plus le cas, on pourrait alterner. Mais voilà. Et puis, il y a aussi d'autres choses, c'est que l'orchestre se partage entre sa saison symphonique, qui est très prestigieuse, et puis son activité au théâtre, et donc n'a pas tout son temps à nous consacrer, à nous. Donc, de toute façon, aussi, l'orchestre n'est pas toujours disponible pour nos spectacles. Il a sa propre vie.
Quand vous montez un opéra, vous le jouez combien de fois ?
Ça dépend de l'opéra, évidemment. Ça dépend du titre. Si c'est un tube, je vais jusqu'à 9, ce qui d'ailleurs n'est pas suffisant. Quand c'est les tubes vraiment, je suis très heureux de ça, hein, on est à 100%, et donc on pourrait en faire encore plus. Et puis pour des choses vraiment expérimentales, pas expérimentales, mais disons plus pointues, ça peut être 4 ou 5.
Combien ça coûte de monter un opéra ? Parce que c'est toujours un problème d'argent aujourd'hui. Il y a quand même, au niveau de l'opéra, une question économique qui se pose de plus en plus.
Alors, elle se pose pour une métropole, c'est-à-dire, puisque c'est un art qui est largement subventionné, ça c'est sûr. Si vous voulez, c'est très difficile à dire parce qu'il y a des choses tellement différentes. Vous avez d'un côté la masse salariale de la maison, vous avez les artistes invités qui sont là, vous avez la fabrication des décors et des costumes, vous avez l'exploitation le soir même, le salaire du contre-l'accueil, les machinistes, etc. Donc enfin, tout ça est...
Ça c'est après, mais quand vous le créez, créer un opéra, ça coûte combien ?
Je vois pas ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez...
Il faut créer, ça veut dire qu'il faut, il faut trouver un metteur en scène, il faut répéter...
Oui, donc là, il y a des cachets de metteur en scène.
Il faut créer des décors, il faut créer des costumes, il faut travailler les lumières.
Ça, ce sont des sommes très différentes, si vous voulez. Par exemple, en effet, normalement, la matière première pour construire un décor, c'est autour de 200 000 euros, par exemple. De bois, d'acier, etc. Ou ça peut être moins, ça dépend aussi ce qu'on décide de faire. Vous pouvez dire à un metteur en scène, là, sur ce projet-là, j'ai pas beaucoup de budget, donc tu te débrouilleras avec ça et ça. Et puis, il y a des moments où, en effet, où, par exemple, on est plusieurs et on peut se permettre une production avec un peu plus de...
Un peu plus ambitieuse.
Un peu plus de moyens. Elles sont toujours ambitieuses, hein, avec ou sans moyens.
On fait une première pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi. Vous vous souvenez de ce que c'est ?
Est-ce que c'est l'air de Marietta dans...
Gluck d'Asmir Verliep.
Voilà, dans La ville morte de Korngold.
Voilà, c'était le choix musical de notre invité, le directeur artistique de l'Opéra National du Capitole de Toulouse, Christophe Gristy. Alors Christophe Gristy, le public toulousain, comment est-il? Est-ce que c'est un public lambda comme on peut le trouver partout? Est-ce qu'on s'est longtemps parfumé du fait qu'ici c'était la ville du bel canto? Est-ce que le public est particulièrement averti ou est-ce qu'il est un public que l'on pourrait retrouver à peu près dans toutes les villes de France?
Ça, je ne saurais pas vous dire d'abord parce que j'aime pas trop parler du public. Chaque personne dans la salle est là pour une raison différente.
C'est souvent pour la même, d'ailleurs, quand même.
Non, mais avec une histoire différente, etc. Donc, j'ai pas trop de discours globalisant sur le public. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'on a trouvé une façon de s'entendre, le public et moi.
Ah,
voilà. Et que la maison est quand même souvent pleine. Les spectacles sont accueillis de manière vraiment très enthousiaste, donc on a trouvé notre mode de fonctionnement. Et en réfléchissant, j'ai l'impression que dans les premiers temps, quand vous arrivez dans un théâtre, il y a un pacte qui se fait ou ne se fait pas entre le public et vous. Et là, j'ai l'impression que le pacte est conclu, que le public a confiance, qu'il vient voir les ouvrages qu'il ne connaît pas. Qui lui fait aussi des succès comparables aux ouvrages qu'il connaît. Donc, c'est. En tout cas, moi, je suis. Évidemment, comme le public est content et vient, je trouve que c'est un public extraordinaire. Mais c'est vrai. Franchement, c'est un public extraordinaire et qui est parfois d'un calme incroyable quand il se passe quelque chose de très très intense sur la scène, qui ensuite explose au moment des saluts. Non, moi je suis. Enfin, je trouve qu'il y a
donc, c'est un public de connaisseurs.
Ah, j'aime pas ça. Je sais pas s'ils connaissent. Mais en tout cas, c'est un public, manifestement, qui est ouvert et qui est heureux d'entendre ce qu'il entend, de voir ce qu'il voit. Moi, je trouve que c'est très dangereux de dire connaître parce que vous mettez tout de suite. Vous créez une catégorie. Un opéra n'est pas du tout fait pour les connaisseurs. C'est fait pour les gens qui ont envie. Qui se disent « je vais aimer ça ». Si on restreint tout de suite le public aux gens qui connaissent, on a 8 personnes dans la salle.
Alors quand je dis connaître, c'est que je voulais dire par là plutôt des gens avertis. Est-ce qu'on peut aller voir un spectacle aussi complet et donc quelque part complexe sans avoir un peu de culture opératique? Vous allez voir une exposition, si vous ne connaissez pas le peintre, si vous ne connaissez pas son histoire, si vous ne connaissez pas son style, si vous ne connaissez pas... vous allez passer à côté de beaucoup de choses.
Je ne raisonne pas comme ça.
Non.
L'important n'est pas de connaître, mais d'être ouvert à l'émotion que va vous donner l'œuvre.
Est-ce que vous ne découplez pas l'émotion si vous connaissez?
Non, je ne crois pas.
Parce qu'on ne joue pas que des... Vous parliez des tubes tout à l'heure, alors vous nous direz que dans votre idée, qu'est-ce que c'est qu'un tube en matière d'opéra? Mais si je comprends ce que ça pourrait être, à savoir des choses que... on prend Carmen, par exemple, qu'on entend depuis. Est-ce que le fait de jouer Carmen une énième fois, par exemple, les gens qui viennent, ils le connaissent, ils l'ont déjà vu, ils l'ont déjà entendu, alors ils vont venir le voir dans cette, peut-être dans une nouvelle conception d'un metteur en scène. La musique, globalement, sera toujours la même. Il y aura une mise en scène différente.
Oui, mais en même temps,
donc, ils seront connaisseurs.
Les grands chefs-d'œuvre, vous vivez avec. C'est d'ailleurs c'est une des très belles choses des arts en particulier. C'est-à-dire que toute votre vie, si vous aimez la peinture, vous serez accompagné par Rembrandt, etc. Puis vous le verrez différemment à 20 ans, à 30 ou à 50. Quand on joue les tubes, une partie du public l'a déjà vu. Mais par exemple, si vous pensez au public des enfants que nous invitons à toutes les générales, l'enthousiasme délirant souvent qui accompagne cette générale, là vous pouvez pas dire que les enfants sont initiés et connaissent. Je crois plutôt, et c'est là plutôt la force de l'opéra, et ce qui pour moi en fait un genre d'avenir, contrairement à ce que les Cassandres peuvent dire, que le spectacle global, c'est-à-dire la force d'impact d'un orchestre, de la voix humaine projetée comme elle est projetée dans un théâtre, du décor, du costume, du maquillage, de la lumière, de tout ça, a un effet physique et émotionnel immense. Donc je crois qu'on est très au-delà de la connaissance. Moi, je fais tout le temps l'expérience, j'amène tout le temps des gens qui n'ont jamais rien vu, qui ne connaissent rien à l'opéra. Je l'ai encore fait, enfin, je le fais tout le temps, mais par exemple, il y a un opéra avec lequel ça marche de manière incroyable, c'est la Bohème. Ouais. Et j'ai amené beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu d'opéra quand nous avons représenté la Bohème. Pourquoi les gens pleurent au bout de 10 minutes, alors qu'ils ne connaissaient pas le nom de Puccini avant de venir à ces représentations ? Il se passe autre chose que la connaissance. Il y a des créateurs qui ont le génie, le don de vous toucher physiquement, par une harmonie, par quelque chose par une couleur. Et donc chacun a sa manière de vous toucher. Mais je crois donc que ça, peut-être qu'on profite encore plus quand on connaît, mais je crois que ça va bien au-delà. Ce spectacle-là, ce genre de spectacle-là, va bien au-delà de la connaissance.
Alors sur l'effet que ça produit, sur le plaisir qu'on ressent, je suis entièrement d'accord, mais il faut que, et vous l'avez dit, quand j'amène quelqu'un à l'opéra, donc ça veut dire qu'il faut quand même les y amener. Il y a une barrière, il y a un bâtiment qui est impressionnant, on se dit que c'est peut-être réservé à une certaine élite, raisonnement qui est faux, on vient de le voir. On n'a pas forcément les codes, tout simplement, on dit comment je vais m'habiller pour aller à l'opéra, c'est une question qu'on se posait peut-être plus autrefois que maintenant.
Oui, je crois. Hein.
Mais il y a une barrière qu'il faut passer. Comment faire passer cette barrière ?
Comme je vous le dis, par exemple, quand on fait Carmen, on le joue 9 fois, les 9 fois sont pleines. Les 9 fois sont pleines à craquer. Donc, elle est où, la barrière ?
Oui, mais Carmen, bon...
Oui, mais Carmen, on joue les Noces de Figaro, c'est plein à craquer. Elle est où, la barrière ? Alors, évidemment, quand on joue quelque chose de plus... Mais par exemple, moi, j'ai été bouleversé. Nous avons donné, au mois de mai, le viol de Lucrèce, de Britten. Qui est un ouvrage de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale, qui sur un sujet... Déjà, le titre n'est pas vendeur, hein, ça, on ne sait pas faciliter les choses.
Non.
Et c'est un ouvrage qui fait face, qui affronte un sujet terrible. Et le soir de... Je pense que dans la salle... peut-être qu'il y avait 4 personnes qui avaient déjà vu le viol de Lucrèce quelque part, et encore, je ne sais pas. Je me revois dire au chanteur, qui ont reçu un accueil extraordinaire, j'avais l'impression qu'on était à Tosca. Vous voyez, là aussi, je me dis, c'est quand le spectacle est bon et quand le spectacle est intelligible et vous fait toucher ce que l'œuvre doit vous faire toucher, les grands sujets éternels. De la condition humaine. Et tout ça porté par la musique, par la voix humaine, qui est une chose... On parle beaucoup de mise en scène en ce moment, mais un des cœurs de la magie de l'opéra, c'est la voix humaine. C'est que vous entendez ce que nous possédons à peu près tous, c'est une voix déployée au-delà du naturel, déployée dans le surnaturel. Et c'est quand même une chose miraculeuse, la projection de la voix dans un opéra, que ce soit d'ailleurs un opéra du XXe siècle ou du bel canto. Il y a quelque chose là qui en effet touche, enfin, qui provoque de l'émotion dans la voix humaine. Et donc, même pour une œuvre inconnue et difficile et âpre, l'émotion a été à son comble. Je crois aussi, ce qui est très important dans une maison, c'est une question d'énergie. Et ça, là-dessus, je dois dire que le Capitole est une maison extraordinaire. C'est qu'il faut porter tout le monde, il faut porter les artistes, il faut qu'ils soient à fond. Encore une chanteuse m'a dit que pour les Jeux du Crest, il y a 2-3 jours, elle avait été à fond. Qu'ils soient à fond et qu'ils projettent dans la salle une masse d'énergie énorme. Et cette masse d'énergie leur revient. Cet échange est très... Moi, je l'aperçois tous les soirs. C'est est très important. Plus vous projetez d'énergie dans la salle, plus l'énergie à la fin du spectacle va vous revenir. On est très loin des gens qui ont fait une thèse sur Britain. Hein. Mais il faut admettre, et c'est vrai que pas tout le monde le fait, il faut admettre avant cette force en tant que directeur, parce que ça vous dépossède d'un discours idéologique. Je vais de l'opéra pour montrer telle chose. Telle chose. Non. Moi, mon job, c'est d'organiser cet échange d'énergie.
Alors, pour l'organiser, vous avez la lourde responsabilité des choix de programmation. Comment vous opérez? Quels critères vous retenez? Pourquoi retenir une œuvre plutôt qu'une autre? Comment vous allez construire votre, je dirais presque votre ligne éditoriale si on était dans une maison d'édition?
Alors, c'est un mélange évidemment de contraintes et de, comment dire, et dans, pas dans, oui, d'envie, pourquoi pas, qui ne sont pas des envies personnelles, c'est, qui ne doivent pas être seulement des envies personnelles. Il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'une saison, elle s'organise, déjà elle se fait dans la tête progressivement, et en effet elle obéit à un certain nombre de contraintes. L'alternance, par exemple, de nouvelles productions construites par nos ateliers et de reprises ou de notre stock ou de location ou de coproductions qui viennent de l'extérieur, parce que les ateliers ne pourraient pas construire une production, c'est à chaque fois un travail de plusieurs mois, ils ne pourraient pas construire une production après l'autre à un mois d'intervalle. Donc, il y a de même le chœur, il faut éviter pour le chœur qu'il ait deux ouvrages où il est très sollicité, deux ouvrages à un mois d'intervalle et deux œuvres par exemple qu'il ne connaîtrait pas et qui sont. Voilà. Donc, il y a plein de choses à penser. Il y a évidemment les contraintes budgétaires, tout ça. Et après, il y a d'un côté, en effet, les moments où vous allez fédérer un très large public autour d'une œuvre, et puis à un autre moment où vous avancez, en effet, vous vous mettez après bah, par exemple, Lionel de Lucrèce, ça venait après Traviata, vous voyez. D'ailleurs, c'est pas le sujet, en un sens, n'est pas si éloigné que ça. Et donc, vous donnez à découvrir, je trouve qu'il est très important pour moi de faire plaisir à mon public, en lui donnant des œuvres qu'il a envie de voir et qui vont le rassembler de manière large. Quand on fait une série de Traviata, a priori, on sait que ça va fonctionner. Mais les gens sont heureux. Et puis, il y a beaucoup de gens qui le voient pour la première fois à chaque fois. Il ne faut pas penser que du tout... Quand vous faites 9 spectacles, vous avez plus de 10 000 personnes. Sur ces 10 000 personnes, il y a une large proportion qui ne l'avaient jamais vu. Qui n'avaient jamais vu Traviata.
Pour ne pas avoir vu Traviata, maintenant, il faut quand même...
Oui, mais parce que vous pensez toujours en public... Pardon, je ne veux pas... Mais c'est une maison, justement, qui, je crois, a dépassé le stade du cercle d'initiés. Sinon, vous ne pouvez pas, dans une ville comme Toulouse, où il y a peu de passages, où il y a peu de touristes, rassembler 10 000 personnes en quelques jours. En gros, vous pouvez vous dire que quand vous faites une œuvre pointue, là, vous avez le public d'initié. Mais quand vous faites une œuvre grand public, ce qui est, jouissif pour le directeur, vous avez dans la salle plein de gens qui ne viennent jamais, qui viennent une fois par an, qui n'ont jamais vu l'œuvre.
Et vos choix, ils sont très personnels? Il se décide avec un staff, une équipe. Et question est-ce, qu'est-ce que le politique a quelques exigences là-dessus, voire les mécènes peut-être, si mécènes il y a?
Alors ce sont franchement des décisions personnelles, mais donc je vous dis assez pragmatiques, personnelles mais pragmatiques. Et je crois que le... Donc à Toulouse, je veux dire, ça c'est vraiment admirable. Là, je n'ai jamais reçu, on m'a jamais demandé de faire telle ou telle chose. La maison marche, la maison est souvent sold out. Je crois que c'est ça qui fait le plus plaisir aux politiques, c'est-à-dire de subventionner une maison qui tourne bien, qui accueille beaucoup de monde. Par exemple, si on pense aux périodes de fêtes, entre le 20 et le 30 décembre, il y a une seule maison qui joue tous les jours à Toulouse. C'est le Théâtre du Capitole. Donc elle remplit aussi son et c'est tout à fait normal, elle remplit sa mission d'être là quand tout le monde a arrêté de travailler.
On évoquait tout à l'heure la difficulté d'aller à l'opéra. Il y en a une des raisons qui pourrait également jouer, ce sont les prix.
Est-ce oui, ça, que, c'est sûr.
Parce que c'est quand même, on a vu, c'est des spectacles très onéreux. Vous avez dit, je fais un décor en moyenne, ça me coûte 200 000 euros. Alors, quand on imagine le reste derrière, on monte à des prix, vous ne le jouez que 8, 9 fois. Donc, il n'est pas rentable en termes de billetterie.
Alors, il y a aussi l'éco-production.
Oui, alors voilà, il y a l'éco-production.
On est souvent plusieurs sur le même projet, quand même.
Et alors, les prix d'entrée, le billet, est-ce que le billet peut être un frein pour certains, certainement,
sans
aujourd'hui
aucun doute. Après, chez nous, ça commence à 10 euros.
Oui, 10 euros, ça va.
Ouais, ça commence à 10 euros, ça va jusqu'à 110. Mais enfin, moi, comme spectateur, quand j'étais étudiant, etc., j'ai commencé là-haut, hein, comme tout le monde.
Et, oui, après
et j'en ai pas de mauvais souvenirs. Et puis après, la vie, parfois, faites que vous descendez, mais, ou parfois pas. Mais on est bien là-haut, hein. On entend merveilleusement bien. Et donc, ça commence à 10 euros. Donc oui, chaque euro est un frein, hein, déjà 5 euros. Il y a aussi, on organise des concerts à midi. Et qui sont
très suivis, pour y avoir suivi quelques-uns. J'ai été étonné, moi j'ai dit, bon on y va, mais il y aura toujours des places. Non, j'étais sur un strapontin, pas assis par terre, mais pas loin.
C'est 5 euros. C'est vrai que par exemple, il y a toute une série de récitals où il y a de très grands chanteurs, qui sont très très grandes stars et qu'on a volontairement mis au tarif de 20 euros pour qu'en effet un large public puisse venir. Oui, bien sûr. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail humain à l'opéra. C'est un art qui coûte cher, ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est un art qui aussi, je crois, entraîne de manière très particulière. Et en effet, quand vous vous dites que chaque production est vue à peu près par plusieurs milliers de personnes, et puis par exemple, vous parlez du prix d'une production. Si on, par exemple, quand on a fait une nouvelle production de Traviata il y a 4-5 ans, donc en effet, on a mis un peu de sous dans les décors et les costumes. On était en coproduction avec un autre théâtre, Bordeaux. Il a ensuite joué cette production. Mais donc, à l'époque, je crois qu'on en a fait 9 la première fois. Cette fois-ci, on en a fait 8, qui était aussi sold out. Et je reprendrai encore ce spectacle. Donc, à l'arrivée, si vous voulez, il y a un tel nombre de représentations qu'il commence à être rentable. Après, il faut aussi se dire que nous passons notre temps à économiser, à faire des économies. Je veux dire, on n'est plus du tout dans un temps où, en effet, on obéit aux metteurs en scène. S'ils veulent un vaisseau spatial, on le leur construit. Non, c'est plus ça du tout. Chaque demande est examinée, chaque demande est acceptée ou refusée. Il y a un gros travail de négociation avec les équipes, comme il y a un gros travail de négociation sur les cachets des artistes. Nous sommes extrêmement attentifs à chaque euro dépensé et pour chaque euro dépensé avoir la qualité maximale.
Pour revenir à la programmation, vous parliez de ces tubes et vous en avez cité quelques-uns. Je crois que c'est Pierre Boulez, oui, qui disait « La tradition n'est que l'alluvion des habitudes ». Qu'en est-il de la création en matière d'opéra, la création contemporaine ?
Alors la création contemporaine, elle existe beaucoup et elle fait partie du cahier des charges que nous avons eu. C'est formidable de créer un opéra. Après, le sujet pour un opéra comme le Capitole, c'est que on va avoir une grosse création en novembre 24. C'est un investissement important qui, en effet, n'est pas suivi là d'une fréquentation. on sait très bien qu'on ne va pas faire 9 spectacles sold out, ça c'est très clair. Donc, une création, oui, justement, nous sommes un établissement subventionné, donc c'est un devoir et un plaisir de le faire, mais il faut savoir mesurer les choses, vous ne pouvez pas les enchaîner, ça c'est clair. Pierre Boulez, il n'aimait pas trop le répertoire de l'opéra, sauf quelques œuvres très particulières, et d'ailleurs qu'il dirigeait de manière absolument extraordinaire. Mais bon, ça c'est voilà, ce qu'il a pu dire sur ses... Parfois, il était très polémique sur ces questions-là.
Il n'était pas tendre,
mais en effet... Enfin, la chose continue à exister sans lui. En effet, je ne pense pas qu'il aimait beaucoup le Barbier de Séville, mais le Barbier de Séville lui rend bien, si vous voulez. C'était un créateur, il avait son état d'esprit. Enfin, en même temps, il a fait des choses à l'opéra qui sont extraordinaires. Son Péléas, ses Wagner étaient somptueux. J'ai oublié le début de votre question.
On parlait de la création. Alors...
La création. Oui, donc, si vous voulez, c'est important de créer des ouvrages, mais on ne peut le faire, nous, que de manière très attentive, mesurée, etc.
Est-ce que c'est certaines modes ou certaines pressions qui agitent tout le landerneau culturel, la cancel culture, par exemple, la place des femmes, des jeunes, les minorités de couleur, ou peut-être majorité de couleur, je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous tenez compte ou pas spécialement?
D'abord, il faut penser qu'un opéra ou une institution culturelle n'est pas du tout fermée sur elle-même. Elle est le miroir de la société. Tout ce qui se passe dans la société se reflète dans la maison. Chaque mouvement de société se reflète dans la maison. C'est tout à fait extraordinaire.
Mais le miroir, c'est vous qui l'orientez.
Ensuite, oui. Si on parle de place des femmes, leur place, pour moi, est tellement évidente. Elle n'est pas un sujet. Et je fais travailler beaucoup de metteuses en scène. Un domaine où, en effet, il y a de la progression, c'est les chefs d'orchestre. C'est, en effet, jusqu'à la génération actuelle, il y avait quand même peu de chefs de ZEF ES d'orchestre. Donc ça, il faut leur laisser aussi le temps de se... Que les jeunes musiciennes se décident pour ce métier, qui était en effet jusque-là, non pas réservé, mais enfin, il se trouve qu'il n'y avait à peu près que des hommes, qu'elles se forment et qu'elles prennent l'expérience qu'il faut pour... parce que c'est pas facile, il faut de l'expérience, enfin, je veux dire, c'est un métier. Donc il faut que cette nouvelle génération-là, qui, j'espère, va se développer le mieux possible pour que ce soit complètement normal, complètement inaperçu, que ce soit une femme qui dirige dans la
fonction. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
C'est pas encore le cas. Je suis stupéfait, mais c'est moi qui ai invité la première chef d'orchestre à diriger une série au Capitole. C'est quand même hallucinant.
C'est vrai que moi qui suis souvent là au Logrin, j'ai rarement vu une femme à la baguette.
Oui. Donc il y a un effort à faire vraiment là de volontariste qui est très important pour que enfin tout ça devienne absolument normal et monnaie courante et qu'on n'en parle même plus. Bon, c'est pas tout de suite, mais nous sommes sur la bonne voie.
Vous allez vous délocaliser un peu, alors je n'ose pas dire en province, mais enfin bon, hors Toulouse, parce que j'imagine que le public est essentiellement celui de Toulouse et de la région. Des opéras, il n'y en a pas dans l'Occitanie ailleurs qu'ici, Montpellier, je crois. Oui. Mais enfin, entre Toulouse et Montpellier, il y a quand même un grand désert, ouais. Et des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un opéra. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir dans des petits pays où il y avait des représentations, on parlait d'opéras éclatés tout à l'heure, pourquoi pas le citer, de les accompagner. J'ai vu les gens qui sortaient avec les étoiles dans les yeux, qui étaient ravis, mais qui ne seraient jamais allés spontanément dans l'opéra. Qu'est-ce que vous faites pour tous ces gens? Le fait que vous soyez national aujourd'hui n'implique pas que vous vous délocalisiez un peu?
Oui, alors cette case était cochée avant même que nous devenions nationaux. D'abord, en effet, on a beaucoup de spectateurs qui viennent à Toulouse, des villes environnantes, Albi, Montauban, Tarbes, souvent d'ailleurs le dimanche après-midi parce que c'est le plus simple. Donc on a beaucoup de spectateurs de la région. Et après, on recrute encore au-delà, ça c'est très bien. Et pour la délocalisation, d'abord, en effet, les trois forces artistiques de la maison tournent dans la région et au-delà de la région, soit l'orchestre, le ballet ou le chœur. Et ensuite, il y a une activité comme si vous cumulez tout, les tournées de l'orchestre, les tournées du ballet, les tournées du chœur, ça commence à faire pas mal. Et ensuite, on a aussi un projet qui me tient très à cœur, que nous faisons maintenant depuis 3-4 ans, qui est le... Par exemple, on a fait... nous sommes en 23, c'est ça ? En 22 et 23, le bus Figaro, qui était une version en français du Barbier de Séville en 1h05, 1h10, pour 4 chanteurs et accordéon, dans une production ravissante, faite vraiment dans nos ateliers, avec le même niveau de qualité que pour les décors, les costumes, que ce que nous faisons pour la grande salle, je peux dire comme ça. Et par exemple, ce Barbier de Séville, nous l'avons donné 80 fois. Et en mai prochain, et donc mai 24 et mai 25, nous donnerons le bus Papageno, c'est-à-dire sur le même principe avec la flûte enchantée. Et c'est ce bus Figaro, donc 80 représentations, deux tiers dans les cours d'école de toute la région, en Aveyron, mais absolument partout, et les places de village.
À l'ancienne, comme Molière.
Oui, oui. Et ça, seul, vous parliez de budget, qui peut donner 80 représentations, en gros gratuites ? Parfois, elles étaient achetées par telle commune, etc. Mais à un prix dérisoire. Si ce n'est pas une grande institution qui a un budget et qui a les reins solides, qui peut faire 80 représentations ? Et dans les cours d'école, c'était toujours gratuit. Enfin, nous déplacions gratuits.
Il y avait les parents aussi ?
Non. C'était pendant le temps scolaire. Avec les parents, c'était sur les places de village.
Ouais.
C'est seulement une grande institution qui a un peu de moyens et qui sait gérer ses moyens, qui peut donner 80 représentations d'un spectacle comme ça.
Pour parler de quelque chose qui est très actuel, mais je pense que c'est une question pour l'homo sapiens, que nous sommes un peu existentiels. Si on parle du bilan carbone de l'opéra, je vais vous faire peut-être tressauter, mais tout le monde voyage, on consomme beaucoup d'énergie. J'ai lu quelque part que l'Opéra National de Paris consommait autant qu'une ville de 8000 habitants. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, je vous le livre comme je l'ai lu. Comment peut-on acquérir une plus grande sobriété techniquement ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça ne se ferait pas au détriment de la qualité ?
Non, ça je crois pas. Disons qu'il y a des choses à mettre en place que je trouve absolument normal de mettre en place aujourd'hui. Déjà, ce système de coproduction, c'est-à-dire de ne pas tous fabriquer dans notre coin alors qu'on pourrait très bien faire les choses ensemble. Donc ça, c'est très important. Il faut réaliser à quel point, enfin, je pense qu'à Toulouse, on ne s'en rend pas compte, mais à quel point le Capitole s'exporte. J'ai un exemple en or. Au mois de mars prochain, donc mars 24, nous serons évidemment, nous jouerons à Toulouse. Je crois qu'on sera entre Idoménée et Cenerentola. Nous serons à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées avec Boris Godounov, construit dans nos ateliers, par nos ateliers. Nous serons à Tel Aviv avec Roussalka, construit par nos ateliers. Nous serons à Palerme avec les Pêcheurs de Perles, nos ateliers toujours. Et nous serons à New York avec la Rondinée, au Metropolitan Opera, avec la Rondinée de Puccini, encore nos ateliers.
Donc on va beaucoup voyager.
Donc nous jouons en même temps à Paris, Palerme, Tel Aviv, il m'en manque un. Le rayonnement de la maison, est international.
Vous avez le don d'ubiquité ?
Bah, il faut. Et puis, dans les dernières années, on a coproduit avec le lycée de Barcelone, avec Tallinn, avec le Gärtnerplatz de Munich, avec Lausanne, avec l'Opéra de Versailles, avec le Théâtre des Champs-Élysées. Donc, c'est une activité. Peut-être que je pense que beaucoup de spectateurs ne voient pas ce rayonnement et cette activité internationale trépidante, en fait.
Ils vont pouvoir l'entendre. Hein, Esprit Occitanie est écouté dans 130 pays dans le monde, je vous le dis. Il n'y a peut-être pas des millions de gens, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, ils auront à cœur de découvrir l'Opéra de Toulouse. Vous n'êtes pas inquiet par la concurrence des écrans aujourd'hui? Il faut quand même dire, les jeunes, si vous lisez par exemple Patino, qui est le patron d'Arte, qui vous dit que les jeunes, c'est comme les poissons rouges, c'est 8 secondes à peu près d'attention. L'opéra, c'est quand même exigeant, très exigeant. Alors vous avez la salle pleine, donc effectivement, vous l'auriez à moitié pleine, vous poseriez peut-être plus de questions. Là, vous n'avez pas besoin de vous en poser. Mais quand même, globalement, tous ces écrans, c'est qui vole l'attention des gens et qui font qu'on leur sert une daube pas possible. Donc ça veut dire quand même aussi que l'exigence culturelle et intellectuelle est en train de chuter drastiquement. Ça vous inquiète pas?
Ça m'inquiète terriblement.
Ah bon, non, je vous voyais serein quant à l'avenir de l'opéra.
Non, je suis concentré. Ce qui me fait avancer, c'est que en effet, je vois l'enthousiasme de la jeunesse quand elle vient. Et qu'elle voit bien que ce n'est pas la même chose.
Oui, mais elle vient dans quel cadre? Elle ne vient pas spontanément, elle vient dans un cadre
Elle vient aussi spontanément. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui viennent.
Jeunes, c'est-à-dire quel âge?
Donc 20 ans, 30 ans.
Ah,
30 ans de jeunes. On est au début de son apprentissage culturel quand même. Il y a des tarifs, enfin 30 ans déjà on a dépassé le tarif jeune, mais il y a des tarifs très intéressants pour les jeunes. Par exemple, écoutez, là je suis allé récemment présenter la saison à l'INSA à Toulouse, donc l'école d'ingénieurs. Mais il y avait beaucoup de monde qui était venu écouter. Et puis il ne faut pas négliger aussi la pratique personnelle des gens. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont collés aux écrans, mais il y a encore beaucoup de jeunes qui font du sport, qui font du piano, qui font de la danse, qui font de la musique, qui font du jazz, il faut pas sous-estimer ça quand même.
Ce sont des jeunes qui sont d'un milieu privilégié, ou par exemple, si vous êtes allé, envoyé au Mirail le bus Figaro. Comment ça a été reçu?
Mais c'est bien reçu toujours, parce que c'est joyeux. C'est des œuvres drôles et joyeuses et pimpantes, et ça marche très bien. Ce sera la même chose, je pense, avec La Flûte Enchantée. C'est des œuvres à la fois émouvantes et joyeuses. Je n'irai pas dans certains endroits avec une tragédie. Je ne crois pas que c'est le message qu'on doit envoyer.
Au moins au début, absolument. Après, une fois que certains apprentissages
fait. Bien sûr. Mais je crois que pour un premier contact, la force vitale d'une œuvre comme La Flûte Enchantée ou Le Barbier, je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment la force vitale qui touche les gens. Et puis, la voix, là, une fois encore, le choc de la voix humaine. Moi, je trouve ça bouleversant. Pendant le Covid, je suis allé dans... tous les projets avec les classes étaient arrêtés. Je suis allé vraiment dans plein de classes, et alors vraiment dans toute la région. On a fait beaucoup de kilomètres, avec simplement un chanteur et un pianiste sur un piano électrique, pour faire entendre la voix humaine aux enfants. Et on a été vraiment dans tous les établissements possibles, dans toutes les sociologies possibles, avec parfois des surprises d'ailleurs hallucinantes. Évidemment, certains baillaient, mais d'autres étaient happés par la puissance des vocations et la puissance émotionnelle de cette voix. La voix humaine, vous la retrouvez dans toutes les musiques. Elle est au centre du rap, elle est au centre de toutes ces choses-là. Donc, une partie de l'initiation au magnétisme de la voix est déjà faite chez tout le monde.
Yassir Ougresti, on est... Alors j'avais beaucoup de choses, encore de questions à vous poser, j'avais envie d'échanger sur d'autres temps avec vous, mais bon, une heure, c'est une heure, hein. La radio, c'est un peu l'école de la frustration, mais j'aime bien quand même toujours garder quelques minutes pour finir en parlant de livres, parce que je suis un homme du livre, et vous aussi. Alors je vous avais demandé de nous parler d'un livre, votre choix, vous avez choisi un livre de George Sand, Consuelo, ouais. Pourquoi ?
Ah, parce que c'est un des plus beaux livres sur la musique que je connaisse. Consuelo, donc c'est l'histoire d'une cantatrice au XVIIIe siècle, racontée donc dans un style épique par George Sand. Elle s'était inspirée d'une grande cantatrice du XIXe qui était son amie, qui était Pauline Viardot, pour raconter cette vie. Et c'est un livre absolument palpitant, un livre d'aventure avec, donc on s'en centre, une jeune chanteuse née à Venise, mais d'origine espagnole, avec des origines bohémiennes, et qui va parcourir l'Europe avec des succès, des malheurs, qui va et croiser le destin de d'autres grands personnages. Et c'est un livre absolument enivrant, merveilleux. Et puis c'est un merveilleux livre sur la musique, notamment sur tous les premiers chapitres où Consuelo sent en elle la voix s'éveiller et le génie s'éveiller. Et comment le petit signe devient un oiseau extraordinaire. Ça, c'est très bien évoqué. Donc c'est un roman merveilleux.
Alors, Consuelo, George Sand, eh ben, on a vraiment envie de le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Oui, c'est plus très cher aujourd'hui. Alors, moi, je voulais vous parler, mais on n'a plus trop le temps, d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous connaissez René Frégny.
Non.
Qu'il faut lire. Pour moi, c'est une espèce de successeur de Giono. Il a publié chez Gallimard, mais j'en parlerai une autre fois, Minuit dans la ville des songes. C'est un monsieur délicieux qui a aujourd'hui un certain âge et son livre m'a fait voyager, m'a fait... C'est un livre qui ne parle que des livres, et d'un monsieur qui s'est éveillé à la vie à travers les livres, qui ne lisait pas quand il était enfant, tout simplement parce qu'il ne voyait pas, qu'il avait des lunettes, mais qu'on le moquait pour ses lunettes, et que donc il ne mettait jamais ses lunettes, et puis un jour il se retrouve en prison, et là il commence à lire, à lire, à lire, à dévorer, enfin bon. Voilà. Mais je voulais surtout vous signaler un autre livre dans le droit fil de ce que nous avons dit, ça s'appelle, vous le connaissez peut-être, SOS Culture, de Serge Regour, aux éditions indigènes, très belles éditions indigènes. Vous ne connaissez pas
non.
Serge Regour.
Je connais Serge
Regour. Serge Regour qui est à la région, pas. Donc on pourra absolument, lui parler absolument. Effectivement du fait qu'on attend un peu des sous à l'opéra. Serge Regour qui est chargé de... le président de la commission culture et qui a fait un petit livre, SOS Culture, tout à fait décapant, où il règle un peu leur compte à certains politiques, puisqu'il a constaté, il est bien passé pour ça, que bien, la culture et les politiques, c'était deux mondes un peu différents, mais ça, je ne vous demande pas de le commenter, et qui parle aussi de l'administration culturelle en France, et de certains qu'il appelle les géomètres de la culture, mais je ne vous en dis pas plus, parce que Serge Regour a la dent un peu dure. Mais lisez SOS Culture, je crois que c'est un bon bilan de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde qu'il faut défendre et puis qui est un peu aussi l'honneur de notre civilisation.
Absolument.
Finalement. Merci Christophe Gristi de nous avoir consacré cette heure. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Nous avions la technique au bouton Tiffaine Lemen, que je remercie. Et vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi d'ailleurs que ceux de toutes les autres, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir Christophe Gristi.
Au revoir.